Il me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour donner cette conférence. Merci beaucoup à chacun de vous pour votre participation. Et merci à la Première Église du Christ Scientiste à Paris pour la parrainer. Je vais certainement parler du COVID-19, mais avant, il y a plusieurs choses que je dois vous expliquer. Donc, s'il vous plaît, patientez, on va y arriver, c'est un terme très, très important. Même en dépit d'une pandémie, la vie est belle. Si nous pensons à une amitié joyeuse et durable, ou une merveilleuse journée en famille avec plusieurs générations autour de la même table, des paysages glorieux, un tableau qui capte la lumière fugace qui joue avec les eaux d'un lac scintillant, ou un poème qui, dans quelques mots seulement, communique une profonde inspiration. Mais la vie humaine n'est pas toujours quelque chose d'agréable. Je pense que je peux dire, sans me tromper, que nous connaissons tous la vie humaine et ses défis, ses frustrations, ses déceptions, ses conflits grands et petits, ses peurs et ces maladies, y compris ces maladies contagieuses. La science chrétienne propose des nouvelles idées sur la nature de Dieu, des nouvelles idées sur la nature de qui nous sommes en tant qu'expression de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Ces nouvelles idées peuvent nous élever au-dessus des limitations, au-dessus des désaccords de la vie humaine, jusqu'à découvrir notre véritable nature en tant qu'expression divine, découvrir qui nous sommes et découvrir comment nous sommes, toujours heureux, toujours en paix et toujours en bonne santé. Mary Baker Eddy, la découvreuse de la science chrétienne, connaissait la vie humaine très bien. Elle grandit dans les années 1820-1830. Elle était la Benjamine dans une famille de 6 enfants, dans une ferme, dans l'État de New Hampshire, dans la région des États-Unis qui s'appelle la Nouvelle-Angleterre, où se trouve la ville de Boston. Quand elle était petite, elle aimait Dieu beaucoup et elle adorait sa famille. Puisqu'elle était souvent malade, elle ne pouvait pas fréquenter l'école avec régularité. Mais elle s'intéressait beaucoup à apprendre. Elle s'intéressait beaucoup au monde qui l'entourait. Elle était très encouragée dans ses études, surtout par son frère Albert qui était un lettré. Elle était très encouragée, surtout par sa mère, à mettre en pratique les enseignements de Jésus. À l'âge de 22 ans, Mary Baker s'est mariée avec George Glover, un entrepreneur. Et ensemble, ils ont déménagé à toute une autre région des États-Unis, en Caroline du Nord. Là, après 6 mois, et en dépit de leurs prières sincères, il est décédé de la fièvre jaune. Oui. Une maladie contagieuse, la laissant seule et enceinte. Elle est retournée en New Hampshire, où elle habitait initialement chez ses parents et plus tard chez une de ses sœurs. Quand son enfant est né, elle le nomme George après le père. Il est très énergique et puisqu'elle est souvent malade, c'est difficile pour elle de s'occuper de lui. À un moment donné, le reste de la famille, inquiet au sujet de la santé de la mère et contre sa volonté, enlève l'enfant et le place dans une autre famille. Bien sûr, ça c'était difficile pour elle d'accepter. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles elle voulait se remarier, pour former un cercle pour recevoir son enfant. Elle s'est mariée avec Daniel Patterson, un dentiste itinérant. Mais leur mariage n'est pas heureux. Lui, il ne gagne jamais assez d'argent pour qu'il puisse jouir de beaucoup de stabilité. Et envers la fin de leur mariage, il n'est plus fidèle à elle. Quoiqu'elle ait travaillé plus que 20 ans pour sauver le mariage, elle a terminé par divorcer. Et la famille avec laquelle le petit Georges habitait a déménagé à ce qui était considéré à l'époque « the Far West » à l'état de Minnesota. Et là, l'enfant est informé que sa mère était décédée. Elle n'a rien entendu de lui pendant 5 ans. Elle ne l'a pas vu pendant presque 25 ans. Bien sûr, nous avons tous des défis dans la vie. Comment Mary Baker faisait-elle face aux siens? En essayant même plus de mettre en pratique les enseignements de Jésus, en se dirigeant même plus vers sa Bible, elle savait que la Bible est pleine des promesses que Dieu est toujours ici pour chacun de nous à tout moment, pour nous aider dans des moments de difficulté. Mais comment démontrer cela pratiquement au beau milieu de la pauvreté, de la solitude et de la maladie? Pendant cette période, elle a recherché plusieurs façon d'améliorer sa santé, la médecine conventionnelle, l'homéopathie, un système de guérison qui était très populaire à l'époque, le traitement avec de l'eau, et ce que nous appellerions aujourd'hui l'hypnose. À un moment donné, elle a utilisé les services d'un guérisseur mental bien connu, Phineas Quimby, et pendant une période, elle semblait aller mieux, mais seulement pendant une certaines périodes. Donc, à un moment donné, elle a utilisé les services d'un guérisseur mental bien connu, Phineas Quimby, et elle semblait aller mieux, mais seulement pendant une certaine période. Et à la fin, elle était déçue parce que la base de son système de guérison n'était pas le principe moral et spirituel qui constituait l'essence des enseignements et les œuvres de guérison de Jésus. En 1866, elle a éprouvé une percée. Elle était en train de marcher à une réunion de tempérance. C'était une sorte de réunion qui était assez commune à l'époque, organisée pour décourager les gens à consommer de l'alcool dans la société. Et c'était en février, dans la ville de Maine, Massachusetts, pas très loin de Boston. Et elle s'est glissée sur un trottoir verglacé et elle est devenue inconsciente. Elle a été transportée à une maison pas très loin de là. Et le médecin qui l'attendait a diagnostiqué de graves lésions internes. Et ne pensait pas qu'elle allait survivre. Mais elle s'est réveillée et elle a demandé sa Bible. Alors, dans un moment de grande inspiration, quand elle était en train de lire une des guérisons effectuées par Jésus, toutes ces années de recherche spirituelle pour des réponses, toutes ces années de recherche pour avoir une meilleure santé, ont culminé dans une guérison. Elle se portait bien, à la grande surprise de ses amis. Et quoiqu'elle ait expérimenté de petites rechutes dans les prochains mois, finalement, elle n'était pas seulement guérie des effets de la chute, mais après cet accident, elle jouissait toujours d'une meilleure santé qu'avant. Alors, qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'au-delà de tout ce qui est physique et biologique, au-delà de tout ce qui est organique, était Dieu en tant que la vie et qu'elle était unie à cette seule vie. Dans cette unité avec la vie, elle avait tout ce dont elle avait besoin, y compris sa santé. Bien sûr, à travers l'histoire, beaucoup de personnes ont été guéries et puis ils ont tout simplement continué à vivre. Mais elle voulait savoir exactement ce qui s'était passé. Pourquoi a-t-elle été guérie alors et pas plus tôt, pas plus tard? Et est-ce qu'il y avait une science? Est-ce que ces bons résultats pourraient être répétés dans des autres cas, avec des autres personnes? Très naturellement, elle est retournée à sa Bible pour comprendre ce qui s'était passé. Et elle a commencé à prendre des notes très détaillées sur ce qu'elle lisait dans la Bible. Elle trouvait qu'avec cette compréhension de Dieu en tant que la vie, avec cette compréhension d'identité en tant qu'expression spirituelle de cette vie, elle pouvait guérir des autres personnes. Et un petit peu plus tard, elle pouvait enseigner aux autres comment guérir avec cette compréhension. Le fait que non seulement elle, mais aussi des autres personnes pouvaient pratiquer cette science de guérison, confirmait pour elle qu'elle avait découvert la réalité spirituelle, la science de la guérison, qui était à la base des œuvres de guérison de Jésus. Ces guérisons étaient des guérisons physiques importantes et parfois des maladies contagieuses telles que la malaria, la diphtérie et la tuberculose. Mais aussi, il y avait un élément moral très important. Souvent, la personne se sentait élevée spirituellement. Souvent, la personne devenait une meilleure personne, moins égoïste. En 1875, elle a organisé toutes ses notes dans un livre. Et voici le livre. Science et santé, avec la clé des Écritures. Dans ce livre, l'auteur explique comment prier pour être protégé contre un virus. Si on a contracté un virus, comment prier pour être guéri? Et même si, en faisant votre devoir, vous vous exposez à un virus, comment jouir de la protection. Mais avant de parler très spécifiquement de cela, je veux vous lire un passage qui est même plus fondamental. C'est un passage qui se trouve à la page 259 du livre. Voici le passage. La compréhension, semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine, renferme un principe parfait et une idée parfaite, Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. Elle ne voulait pas dire que les humains sont parfaits. Elle voulait dire qu'au-delà de tout ce qui est humain est la perfection de Dieu et que l'identité de chacun de nous, notre véritable identité éternelle, reflète la perfection de ce Dieu parfait. Un autre passage, celui-ci se trouve à la page 547. Cher lecteur, vous pouvez prouver pour vous-même la science de la guérison et ainsi vous assurer si l'auteur vous a donné l'interprétation exacte de l'Écriture. Une personne qui a fait cela précisément était Asa Gilbert Eddy. Et en 1877, ils se sont mariés. Et alors, Mary Baker est devenue Mary Baker Eddy. Parlons de démontrer cette science pour soi-même. Je vais vous raconter deux expériences personnelles. Une expérience dans le contexte du COVID-19. Mais maintenant, je vais vous expliquer une expérience que j'ai eue il y a 15 années à peu près. j'ai commencé à éprouver des douleurs très aiguës au bas de l'abdomen. Et ces douleurs étaient vraiment des épisodes douloureux, des épisodes qui ont duré 2-3 heures. Bien sûr, j'ai commencé à prier avec ces idées que ma vie est Dieu, que ma vie est parfaite, que la volonté de Dieu, c'est toujours que je sois libre, libre de crainte, libre de douleur. Ces douleurs me faisaient penser à une expérience d'un membre de la famille des années avant, quand le membre de la famille avait été hospitalisé et traité pour des calculs biliaires. Pendant cette période, j'étais en train de servir l'Église et plus tard, je vais vous expliquer un petit peu sur l'Église de la science chrétienne. Et j'ai dû apparaître en public 6 fois par semaine pour parler. Mais j'ai trouvé que ces épisodes douloureux ne m'empêchaient pas de faire cela. J'ai éprouvé ces douleurs des autres heures, des autres jours de la semaine. J'étais très reconnaissant. Aussi, pendant cette période, je recevais des visites des membres de la famille et ces membres de la famille auront été très inquiets s'ils savaient que j'éprouvais de telles douleurs. Mais ils n'ont jamais appris parce que si j'étais avec eux et j'ai commencé à éprouver ces douleurs, j'ai pu m'excuser, j'ai pu me retirer pour prier. Je disais que j'avais du travail à faire, ce qui était souvent le cas de toute manière. Aussi, pendant cette période, je recevais de l'aide de 2 praticiens de la science chrétienne, initialement d'un et puis plus tard d'un autre. Un praticien de la science chrétienne, c'est quelqu'un qui donne tout son temps à aider aux autres par biais de la prière. Ces praticiens ont prié pour moi. Nous avons parlé des idées de la Bible et de science et santé. Ils m'ont beaucoup aidé. Ces épisodes ont arrêté après à peu près 2-3 semaines, mais elles sont revenues à peu près 5 mois plus tard. Mais cette fois, j'étais vraiment prêt à en faire face avec autorité, avec conviction, avec la vérité de ma perfection en tant qu'expression de Dieu. Et ces épisodes ont totalement arrêté. Ça fait maintenant à peu près 15 années. Une telle guérison a comme base un sens plus élevé de l'identité. Une telle guérison a comme base un sens plus élevé de qui est Dieu. Alors, qui est Dieu? La science chrétienne enseigne qu'il ou qu'elle, au lieu d'être une chose parmi plusieurs choses dans l'univers, au lieu d'être une entité parmi plusieurs entités dans l'univers, qu'en réalité, Dieu est tout. Mais comment c'est possible que Dieu soit tout si nous vivons dans un monde composé de choses? Mary Baker Eddy a trouvé dans les Écritures un sens de Dieu en tant qu'amour infini, sans opposé, la seule substance de l'univers, la seule vie de l'univers, le seul entendement, la seule intelligence, et que cela constituait la base des enseignements de Jésus et les œuvres de guérison de Jésus. Bien sûr, on peut lire dans la première épître de Jean que Dieu est amour. Et aussi dans l'Évangile selon Saint Luc, on peut lire ce qui est appelé parfois la perle des paraboles, la parabole de l'enfant prodigue ou du fils prodigue. Dans cette parabole racontée par Jésus, un père plein de miséricorde, plein de compassion, accepte de retour son fils cadet qu'il avait traité d'une manière très irrespectueuse et qui avait dilapidé son héritage. Quand le fils se rend compte qu'il n'a Il n'a ni argent ni quoi manger. Il décide de rentrer chez son père. Mais il doute qu'il soit accepté en tant que fils. Il espère peut-être que le père va l'accepter en tant que serviteur. De cette manière, il va avoir au moins quelque chose à manger. Mais quand le père le voit en train de retourner, il court pour le rencontrer. Il l'embrasse. Et il veut célébrer parce que, dit-il, mon fils, qui était mort, est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Avec cette parabole, Jésus indiquait la nature de Dieu en tant qu'amour inconditionnel pour chacun de nous, amour infini. Ce que Mary Baker Eddy voyait dans les Écritures était vraiment révolutionnaire et remettait en question les suppositions les plus fondamentales de la pensée humaine. Elle ne voyait pas qu'il y a des difficultés, il y a des conflits, il y a des maladies, y compris des maladies contagieuses, et en plus, il y a l'amour infini. Elle voyait que l'amour est tellement infini qu'il existe à la place d'une création matérielle imparfaite. Autrement dit, il n'y a pas un contexte humain dans lequel la souffrance est normale, naturelle et inévitable pour chacun de nous. Et puis en plus, il y a l'amour infini. Elle voyait que l'amour est tellement infini qu'il exclut l'existence de quoi que ce soit en plus de cet amour et son expression. Bien sûr, avec cette idée de Dieu en tant qu'amour infini, la seule substance, la seule vie de l'univers, il nous faut repenser la nature de l'identité. Normalement, les gens pensent que nous sommes des êtres physiques en train d'évoluer physiquement dans un univers qui lui-même est physique et en train d'évoluer. Mais tout d'abord, on peut dire que nous rayonnons en réalité comme des expressions de cet amour infini, que chacun de nous est l'expression parfaite de cet amour. Puisque ça c'est le cas, l'identité n'est pas sujette à être diminuée. L'identité ne peut pas être opprimée, ne peut pas être diminuée, souillée. L'identité existe sans contamination, parce que l'identité, c'est l'expression de ce seul amour infini. L'identité est parfaite et sainte, de par sa nature même. Voici une analogie. Imaginons-nous un édifice avec 3 étages, le rez-de-chaussée, le premier étage et le deuxième étage. Le rez-de-chaussée peut correspondre à un sens d'identité comme étant exclusivement physique. La personne est née, il est formé par les gènes de ses parents, il est formé par ses premières expériences d'enfance et c'est par ses autres expériences dans la vie. Il est composé d'atomes et de chimie. La personne vit un certain nombre d'années, et puis on peut espérer qu'il aime un peu, mais finalement, la personne cesse d'exister. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Le premier étage peut correspondre à un sens d'identité comme étant essentiellement physique, donc la personne vit matériellement, mais aussi il y a un esprit dans le corps, d'une certaine manière intégré dans le corps. Et donc, le corps vit un certain nombre d'années, il continue de vivre, et puis le corps cesse d'exister. Mais l'esprit survit, quoi qu'on ignore exactement sous quelle forme. Ça, c'est le premier étage. Le deuxième étage correspond à un sens d'identité qui est purement spirituel. La personne coexiste avec Dieu, toujours. Et ce qui donne la personne son identité, ce n'est pas l'âge de la personne, ce n'est pas la couleur de la peau de la personne, ce n'est pas la taille de la personne. C'est que chaque individu est une expression individuelle et unique de la gamme infinie des qualités de cet amour. Des qualités telles que la joie, l'intelligence, la beauté, la sagesse, la tendresse, la force. C'est de ce deuxième étage que provient tout ce qu'il y a de bon. C'est parce que nous sommes spirituels que nous pouvons manifester les qualités pour être des bons amis, par exemple, comme l'intégrité, l'honnêteté, par exemple, la constance. C'est puisque nous sommes spirituels qu'on peut manifester toutes les qualités pour être un bon parent, par exemple. Toutes les qualités nécessaires pour être fidèle à nos parents, par exemple. C'est puisque nous sommes spirituels qu'on peut manifester notre bien-être et notre santé, qui forment une partie intégrante de notre véritable identité. Si nous sommes purement spirituels, comment expliquer ces deux autres étages, le rez-de-chaussée et le premier étage? Tout d'abord, on peut dire qu'ils sont que des concepts humains qui, vus d'un point de vue absolu, n'ont pas de réalité. Ces concepts ne sont ni créés par cet amour infini, ni connus par cet amour infini. Et en réalité, ces concepts n'ont pas de substance. Ceci dit, l'apparence humaine des choses, notre plus haute perception collective de la création de Dieu, ne peut pas manquer de refléter dans une certaine mesure la beauté de la vie spirituelle. Donc, toutes les belles choses de la vie humaine, et j'en ai mentionné seulement quelques-unes au début de cette conférence, toutes les belles choses de la vie humaine sont à être appréciées, valorisées, aimées, célébrées, non parce qu'elles représentent la réalité absolue que Mary Baker Eddy a découverte dans les Écritures, mais parce que même en tant que perception humaine, elles ont une grande valeur. Et au fur et à mesure que nous croissons spirituellement, toutes les belles choses de la vie humaine deviennent plus belles encore parce qu'on les voit d'une manière plus spirituelle. Et toutes les mauvaises choses de la vie humaine graduellement disparaissent parce qu'on voit qu'ils n'ont pas de, ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de principe qui peut les soutenir. Il n'y a pas de roc pour les maintenir en place. Alors, ces mauvaises choses doivent forcément disparaître. C'est dans ce roc de l'infinitude de cet amour où notre identité existe en toute sécurité. Nous sommes toujours unis à ce seul amour. On ne peut pas en être séparés. C'est dans le roc de cet amour infini que nos identités sont enracinées, ancrées. Nous sommes vraiment basés sur ce roc. Et ça, c'est la raison pour laquelle on